Oula, elle est rare, cette piquette aussi, là.
Tu peux boire? Je peux goûter? Oui.
Non, mais c'est un vin terreux, avec un bouquet que de cerises. C'est une merveille. Regoûtez en prenant le temps.
CO2, mon amour.
J'ai un oncle qui est viticulteur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour avoir une bonne note dans le guide Parker, les vins doivent avoir une note de vanille et être sucrés et ronds. Et du coup, les gens abandonnent les cépages acidulés. Tout ça pour vendre.
Chaque jour, un peu de la diversité du monde disparaît.
Avec Denis Chessoux.
C'est l'inévitable entropie de l'univers.
Mais moi, je supporte pas, ça me rend triste.
Sur France Inter.
Ah oui, c'est Michael Lonsdale qui vous le dit. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. Émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, ce que l'on va essayer de faire. Avec aujourd'hui Kevin Pellot et Valentin Azan, la technique. Et assisté de Camille Blanès, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Oh, oh, vous avez mal, alors où ça? Là, quand j'appuie sur l'arête, ah non, c'est pas ça, le foie vous dis-je, ah ben c'est pas ça non plus, et là, aïe, oh je vois, depuis le 21 septembre, vous avez attrapé le CETA. Oui, alors c'est pas forcément bon pour le corps humain, ce traité de libre-échange. Ouh, et alors, votre diagnostic, docteur, pour l'avenir. Écoutez, votre président a validé l'entrée du CETA avec célérité, alors qu'il reconnaît les incohérences avec l'accord de Paris sur le climat, traduction, traité climaticide. Eh bien, vous savez, docteur, dès que vous avez du cid à la fin d'un mot, avec tout le respect que je dois à Corneille, c'est jamais très très bon pour la santé. Alors, je vous résume l'affaire. Le rapport de la commission d'évaluation de l'impact du CETA du 8 septembre était quand même assez net sur le sujet. Au départ, la très environnementaliste commission européenne voulait signer ce traité directement avec le gouvernement canadien. Vous savez, c'était plus simple, on s'embêtait pas avec le peuple. Les parlements européens et nationaux ont un peu rué dans les brancards, car à l'origine, le CETA était quand même censé être validé par les parlements nationaux. Sauf que, aujourd'hui, le CETA est mis en place à titre provisoire, certes, mais à quasi 90%. Écoutons, c'était il y a un an, Gaël Giraud, économiste en chef de l'Agence française du développement.
Le cœur du débat et de la difficulté, c'est la possibilité pour un certain nombre d'investisseurs étrangers, américains ou canadiens, de porter plainte contre un État de la zone euro ou de l'Union européenne qui prendrait des décisions législatives qui seraient défavorables aux intérêts de l'entreprise. Et le différend serait tranché par un tribunal international ad hoc. Voilà. Vous savez bien que ça, c'est la possibilité de mettre à terre la souveraineté politique d'un État. Et donc, je crois que du point de vue de la politique, la philosophie politique européenne, c'est, disons, un cheval de Troie terrifiant.
C'est un danger.
Qui est capable de fermer la page qu'on a ouverte avec le traité de Westphalie au XVIIIe siècle. C'est-à-dire la création du concept même d'État-nation, souverain, et donc de souveraineté populaire également, peut être mise à mal par la possibilité de la part d'une entreprise privée qui défend simplement ses intérêts privés, et elle a bien raison de le faire, de contrecarrer l'intérêt général au nom de son propre intérêt privé. C'est ça qui n'est pas acceptable.
Alors qu'est-ce qui nous attend? Augmentation des gaz à effet de serre, encouragement du commerce transatlantique des hydrocarbures, préférence pour les énergies fossiles au détriment du déploiement des énergies renouvelables. Le CETA, donc on peut peut-être dire que c'est un accord du siècle passé, mais qui va être maquillé comme étant un espoir bien sûr pour notre avenir et qui approfondit la dépendance de notre système énergétique aux hydrocarbures. Alors certes, Nicolas Hulot et le gouvernement peuvent être tout à fait contents à juste titre de vouloir mettre fin à la production d'énergie fossile sur le territoire français. Et alors comment on justifie un accord qui encourage leur importation d'un côté, leur production du Canada? Voilà. Et du côté alimentaire, José Bové.
Si on parle de l'agriculture, on est un peu cinglé. On se rend compte qu'aujourd'hui, on veut permettre à des grands groupes comme Lactalis d'exporter 19 000 tonnes de produits laitiers vers le Canada de fromage industriel. Et de l'autre côté, nous, on va importer 50 000 tonnes de viande bovine et 65 000 tonnes de viande porcine, alors qu'on est en excédent en Europe. Pourquoi aujourd'hui imposer des marchés avec des quotas d'importation alors qu'on n'en a pas besoin? Et donc le commerce, c'est pas de faire la guerre entre eux. Faire du commerce pour que les paysans se battent entre eux et qu'il y en a qui perdent d'un côté et qui perdent de l'autre, je vois pas l'intérêt. Ce qui est insupportable pour les citoyens aujourd'hui, c'est qu'on veuille imposer le droit du commerce au-dessus de tous les droits fondamentaux, individuels et collectifs de l'homme. Et ça, à un moment, eh bien, les gens en ont ras-le-bol, et pas simplement en Europe, pas simplement en Wallonie, mais je dirais de plus en plus dans l'ensemble des pays.
Et aujourd'hui, donc, la FNSEA et la Confédération Paysanne, qui se tirent la bourre tout à fait régulièrement, là, sont tout à fait d'accord et sont contre ce CETA. La FNSEA a défilé aussi pour le glyphosate, mais ça, c'est une autre histoire. Oh, dites donc, là, ça sentirait pas peut-être un peu l'entourloupe. Vous savez qu'un vieillard de référendum européen, quand le peuple a dit non et que la porte de Maastricht était fermée, est maltraité. Bah, il est passé par la fenêtre de Lisbonne, non? Alors, comment demain revenir sur une procédure qui est déjà lancée, engagée, sans aller à l'incident diplomatique? Et donc, bah, on attend, on va voir ce que vont dire les parlementaires. Oui, mais alors, en théorie, il est provisoire, ce CETA. Et le problème, c'est qu'il est déjà en action dans votre corps. Ouh, je sais, docteur. On va pas se fâcher avec le Canada, avec Arcade Fire, avec Charlebois. On va pas se jeter du sirop d'érable ou bien du maroilles à la figure. Bah non. Voyez, docteur, ils peuvent pas comprendre que le commerce, c'est pas l'unique graal de tous les peuples du monde. Bah, c'est eux qu'il faut soigner. Alors d'un côté, on a donc des mesures positives pour doroter le climat, mieux s'isoler, chèque énergie, transport, chauffage moins polluant, ça pas de problème. Et de l'autre, eh ben, on a le CETA, qui est un crash test climatique, alimentaire et social, plein de jolies molécules à l'intérieur. Mais, si l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est construit, eh ben, on nous dira que c'est pour permettre aux 10 crash tests de se poser en toute sécurité sur le dos de la démocratie et des citoyens. Bienvenue chez les Shadocks. Actualité, on va faire un petit tour du côté de l'Allemagne, donc veille des élections allemandes. Alors donc où en est-on de la transition énergétique? Alors l'Allemagne, donc premier producteur d'énergie renouvelable de l'Union européenne aujourd'hui, objectif 45% en 2025. La production électrique aujourd'hui, c'est un tiers de renouvelables, c'est 40% donc de charbon, c'est 15% de nucléaire, après vous avez du gaz. On constate quand même une augmentation des émissions de CO2. Et puis, en 2011, après Fukushima, la chancelière Angela Merkel décide l'arrêt de 8 centrales. Bon, à quel prix? On va le voir. Alors, il y a eu un rapport de France Stratégie qui est extrêmement critique sur ce thème-là, qui a d'ailleurs été rédigé par un ingénieur d'EDF. Et alors, moi, je vais me tourner vers vous, Vincent Boulanger. Bonjour à vous, parce que vous êtes journaliste spécialisé, dans les énergies renouvelables, auteur de Transition énergétique, comment fait l'Allemagne, aux éditions donc Petit Matin. Et alors, quand même, pour débuter, Vincent Boulanger, est-ce que la transition énergétique a été un sujet de campagne?
Bonjour à vous. Alors, malheureusement, c'est pas un sujet dans les élections allemandes. Ça a été très peu abordé durant la campagne et le débat télévisé entre Merkel et Martin Schulz. Il faut dire que les populistes d'extrême droite de l'AFD ont un peu trusté le débat, et ce qui fait que l'actualité a été prise par les questions d'immigration, un peu comme on l'a vu en France. Donc l'Energiewende, la transition allemande, a été un peu occultée dans les débats.
Alors le point, s'il vous plaît, aujourd'hui sur cette transition.
Le point positif, c'est qu'effectivement, les centrales nucléaires s'arrêtent au rythme prévu. Aujourd'hui, on va avoir, en principe, en 2017, 35% d'électricité renouvelable dans le mix, ce qui était l'objectif 2020. Donc, on est en 3 ans d'avance sur l'objectif pour ce qui est de l'électricité renouvelable. Tout cela a pu se faire sans que les émissions de CO2 du secteur de l'électricité n'augmentent, ce qui n'empêche que les émissions globales du pays n'ont pas baissé au rythme prévu. Donc c'est là où ça pêche vraiment. Depuis 3 ans, les émissions de CO2 de l'Allemagne ne baissent plus. On est bloqué à moins 28% par rapport à 1990, alors que l'objectif pour 2020, dans 3 ans, est de moins 40%. Donc là, il y a clairement un besoin d'intervention.
Alors, le tarif électrique, quand même, pour les particuliers, a doublé de 2000 à 2013. C'est à peu près ce que l'on voit dans les chiffres.
Oui, le tarif d'électricité est à peu près 28-29 centimes d'euros le kilowattheure.
C'est-à-dire le double de la France, quoi.
Tout à fait, à peu près le double. La bonne nouvelle, c'est que ça augmente plus depuis quelques années. La contribution énergie renouvelable stagne. Elle devrait légèrement baisser en 2018, ce qui veut dire que le tarif n'augmente plus dans les proportions qu'on a connues dans les 10 dernières années.
Alors on a aussi quand même de la contestation, Vincent Boulanger, parce que pour assurer l'équilibre du système électrique, il y a quand même des milliers de kilomètres de lignes nouvelles, donc à très haute tension, qui vont du nord au sud, puisque principalement on va dire qu'il y a une grosse production au nord, et principalement, je fais ça à gros traits, vous avez donc une grande partie de l'industrie qui est au sud. Donc il y a quand même des oppositions locales.
Il y a des oppositions locales, ce qui fait que les projets de ligne ont bien 3 ans de retard dans la vue. Il n'empêche qu'il y a des processus de concertation qui ont été mis en place par les opérateurs de réseau avec les populations locales, qui fait que certaines lignes se développent mieux que d'autres. Les lignes qui ont été dans les Länder du Nord, par exemple, se sont passées sans trop de problèmes. On a pas mal de soucis avec la Bavière, qui refuse à la fois les lignes de transport et à la fois d'implanter des éoliennes sur son territoire. C'est-à-dire que Elle ne veut pas l'éolien du Nord et elle ne veut pas d'éolien chez elle non plus.
Donc le Bavière de Munich n'en veut pas, quoi. Enfin, non, je plaisante, mais c'est...
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que pour des raisons un peu de... Là aussi, de populisme, le président de région a passé une réglementation qui, dans les faits, interdit l'implantation de nouvelles éoliennes. Donc, par quoi on va remplacer les centrales nucléaires qui vont s'arrêter? Il y en a encore quelques-unes dans le sud de l'Allemagne. C'est la question actuellement.
Et puis, évidemment, donc, quand vous parlez de la Bavière, donc, c'est Munich. Parmi les 16 Länder, c'est le plus important, plus de 70 000 km² sur 357 000 au total. Donc, c'est vraiment ça. C'est un poids, donc, extrêmement lourd. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi de l'agriculture et de la méthanisation? Parce qu'il y a quand même 800 000 hectares de cultures énergétiques qui sont donc convertis au maïs. Ce maïs va donc alimenter des méthaniseurs avec quand même des subventions qui sont importantes et coûteuses en direction des agriculteurs. Et ceci pendant quand même 20 ans. Comme pour d'ailleurs toutes les énergies renouvelables, il y a un prix donc qui est fixé et qui sera stable pendant 20 ans.
Tout à fait. Moi, ça, on peut dire que ça a été une erreur de la transition énergétique allemande d'instaurer une incitation à planter des cultures énergétiques, dont le maïs, qui est très méthanogène. Ce qui fait qu'on a vu localement des prix des fermages qui ont augmenté, des monocultures de maïs qui se sont implantées autour des méthaniseurs. Tout ça est devenu très impopulaire et on a bien vu que ça crée des problèmes dans la population rurale, qui fait que depuis 2012, il n'y a plus aucune incitation du gouvernement pour les cultures énergétiques, mais on vit avec ce passif-là.
Donc pendant 20 ans, ça continuera, quoi.
Et donc ça va continuer. Alors les surfaces plantées de maïs ont légèrement diminué après l'arrêt des subventions, après 2012 donc. Et aujourd'hui, l'orientation est plus sur les déchets urbains, les déchets de toutes sortes, méthanisés, parce qu'il y a encore du potentiel de ce côté-là. Mais oui, on peut dire que ça a été une erreur. Et en plus, ça a été fait pour uniquement l'injection d'électricité dans le réseau. C'est-à-dire que c'est pas non plus des unités de méthanisation en cogénération qui auraient produit de la chaleur et de l'électricité. Les Allemands, dans leur objectif d'arrêter les centrales, ont vraiment misé beaucoup sur la production d'électricité. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire pour ce qui est de la méthanisation.
Aujourd'hui, Vincent Boulanger, donc un tiers d'énergie renouvelable. La question, c'est aussi à quel prix? Parce qu'on voit des chiffres qui oscillent entre 21 milliards, 25 milliards par an, donc étalés sur une vingtaine d'années quand même.
Oui, c'est des chiffres qui font généralement peur quand on en parle comme ça, mais c'est 21 milliards d'investissements dans l'économie allemande par an. Ce qui veut dire qu'effectivement, il y a une contribution sur l'électricité qui permet de financer ça, mais il y a aussi des retombées de tous ces investissements. Donc ces 21 milliards, c'est des fabricants allemands qui sont devenus leaders dans l'éolien, c'est des emplois, on en compte quand même 150 000 dans l'éolien et près de 400 000 emplois en tout dans les énergies renouvelables. Donc voilà, c'est pas des 21 milliards par an qui servent à rien. D'ailleurs, on est un peu moins maintenant, on est passé sous la barre des 20 milliards. Mais c'est pas de l'argent qui est jeté par les fenêtres pour acheter, par exemple, de l'énergie fossile et des devises qui sortent du pays.
Alors, il y a aussi donc le sujet quand même qui fâche, c'est le prix de la tonne de CO2, c'est-à-dire effectivement donner un prix à ce qui pollue. Et on sait très bien que le chiffre moyen aujourd'hui, ce serait 30 euros minimum cette tonne. Aujourd'hui, c'est à 5, donc c'est absolument ridicule. Et là, ça bloque du côté de l'Allemagne, qui n'entend pas du tout les propositions françaises, en disant « bah oui, mais la France userait un avantage compétitif avec le nucléaire ».
Les Allemands aiment peu les impôts, les taxes, comme beaucoup, et c'est encore moins populaire dans une année de campagne électorale, puisqu'on vote demain. Mais c'est effectivement le facteur bloquant parce que les prix des énergies fossiles ont chuté ces dernières années. Le pétrole est moins cher, le charbon est moins cher, ce qui fait que toutes ces énergies tournent à plein. C'est clairement le facteur bloquant de la transition allemande. Si les émissions ne baissent plus, c'est qu'on roule plus, c'est que les centrales à charbon peuvent tranquillement exporter leur énergie pas chère, puisque les exportations d'électricité de l'Allemagne ont quand même triplé depuis 2010. Donc même si les énergies renouvelables augmentent, l'électricité grise trouve un exutoire à l'exportation. Donc cette taxe carbone devrait être le sujet sur lequel devra se pencher le nouveau gouvernement qui sera mis en place après-demain, parce que c'est le coût des fossiles est ridiculement bas au regard des dommages à l'environnement.
Et 30 euros donc la tonne minimum, ça ferait grimper de 40% à peu près le prix du kilowattheure pour les industriels. Donc là, évidemment, il y a un poids très fort et ça bloque.
Oui, traditionnellement, l'industrie est l'intouchable de l'économie allemande. Donc, ils sont toujours en train de pousser des cris d'orfraie. Mais il faut voir quand même qu'ils achètent, par exemple, leur électricité directement sur le marché de gros. Et ils l'achètent très peu cher par rapport à ce que les particuliers payent en Allemagne. Donc, ils ont de la marge. Ils ne sont pas à plaindre pour l'instant.
Nous dressons donc avec vous, Vincent, donc le portrait des énergies renouvelables aujourd'hui en Allemagne. Et malgré tout, ça reste un projet de société. C'est-à-dire que les gens y tiennent, globalement, les Allemands y tiennent.
Chaque année, il y a des sondages qui sont faits sur l'adhésion de la population aux énergies renouvelables en particulier, et on est toujours à plus de 90% de soutien aux énergies renouvelables. Donc, ils y tiennent pour différentes raisons, parce que la thématique du changement climatique est bien présente dans les têtes. Aussi parce que beaucoup participent d'une manière ou d'une autre à la transition énergétique. On compte plus d'1,5 million d'installations solaires, par exemple, en Allemagne. Donc, c'est quelque chose qui est assez concret.
On dit souvent qu'il y a à peu près une personne sur deux qui est coopérateur d'une de ces centrales. Je ne sais pas si le chiffre il est bon, mais en tout cas, il y a beaucoup d'Allemands qui y participent.
Oui, il y a des centaines de coopératives. Et puis, le déploiement des énergies renouvelables a été porté au départ justement par les citoyens allemands. C'est-à-dire, c'est eux qui ont un peu lancé la machine. Donc, ça, pour l'instant, ça s'est pas démenti. Il y a toujours un mouvement de villes et de territoires qui s'orientent vers le 100% renouvelable. Chaque année, de nouveaux territoires s'ajoutent à la liste. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait pratiquement 40% de la population qui vivait sur un territoire qui se donne un objectif 100% renouvelable. Donc ça, c'est des choses qui sont présentes, qui sont animées au niveau des territoires aussi.
Donc aujourd'hui, bon, on peut le dire, l'Allemagne donc, n'a pas encore baissé donc, ses émissions de gaz à effet de serre. Elles ont même légèrement augmenté, me semble-t-il, au dernier semestre. Il n'y a rien de joué, quoi, voilà.
C'est pas encore plié, on va dire. Il y a encore, parmi les bonnes nouvelles, il y a 7 centrales charbon qui doivent s'éteindre entre 2018 et 2020. Ça a été acté en 2015. Mais il y avait aussi un plan de lutte contre le changement climatique adopté lors de la COP22 qui avait entériné le fait qu'il fallait taxer les énergies fossiles. Donc c'est présent dans les petits papiers du gouvernement, il faut que ça devienne réalité maintenant.
Alors moi je vous renvoie donc à cet ouvrage, hein, Transition énergétique, comment fait l'Allemagne, aux éditions Petit Matin.
Si je peux préciser, oui. L'ouvrage a été édité au Petit Matin en 2015, mais il a été réactualisé avec des tout nouveaux chiffres, et il est maintenant téléchargeable gratuitement sur le site de la Fondation Heinrich Böll Stiftung France. Donc il est sous forme de PDF téléchargeable désormais.
Voilà, comme I don't speak la langue not at all, et qu'on ne lit pas tous forcément Goethe dans le texte et qu'on ne regarde pas les films de Fassbinder en VO, on peut avoir des lacunes. Hein. On va donc poser votre lien sur le site de CO2 My Love en français, dans le texte. Et puis il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite, Vincent Boulanger.
Merci à vous, bonne journée.
Et on va poursuivre, donc là c'était l'actualité. Maintenant, on va se faire comme on aime dans cette émission, vous savez, une page de grand air dans quelques instants, dans les Corbières.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou sur France Inter.
Still.
Portugal, The Man. En fait, c'est un groupe qui est américain, qui vient de l'Alaska. Alors, ils sont tapés un petit délire, je dirais, artistique au niveau du nom du groupe. Voilà. Et donc, choisi par Muriel Pérez. C'était assez tonique, c'était pas mal. Ce qui va être tonique aussi, c'est le vent que l'on va prendre dans la figure. Ouais, parce que nous partons dans les Corbières.
La balade de Denis Chessou.
Ah, on va se mettre à quatre pattes pour rejoindre Frédéric Lizac. Bonjour Frédéric.
Bonjour Denis.
Qu'est-ce que nous avons sous les yeux ?
Moi, la première chose que je vois, c'est la mer.
Ah, c'est intéressant. Alors, ça nous ramène peut-être quelques millions d'années en arrière,
voilà.
C'est ça que
alors,
vous voulez dire ?
Effectivement. D'abord, parce qu'il y a quelques millions d'années, ce coin des Corbières, donc l'Alaric était sous des centaines de mètres d'eau.
Ah ouais ?
Et c'est ce qui fait qu'il y a ces massifs calcaires, notamment de l'Alaric. Mais aussi parce que moi, ça m'a toujours fasciné, ce coin des Corbières, où vous avez tous les vallons où l'argile s'est accumulée un petit peu et où on cultive la vigne. Et là, même en plein été, même sous le cagnard, ça reste avec ce vert qui fait du bien quoi, dans cette chaleur. Le vert de la vigne, voilà, le premier bonheur qu'elle apporte, c'est ce vert pour moi. Et tous les coteaux, qui évidemment sont plutôt calcaire,
nice. On dodeline entre 300, 400, 500 mètres.
Ah oh, oui, grand maximum. Voilà. Et là où c'est vraiment une terre très très sèche, enfin c'est le caillou directement, ouais. Et vous avez la garrigue. Et donc tous ces creux de vignes, voilà, je me dis que ça pourrait être l'eau qu'on voit.
Même si la douceur donc domine un peu partout en France aujourd'hui, bah écoutez, bienvenue dans l'Aude avec des cigales du mois de juillet qui font quand même sacrément du bien. Et donc nous sommes dans les Corbières, limitées justement par le grand coude de l'Aude, donc au sud, donc là je parle de la rivière, la Méditerranée et les Pyrénées orientales. Alors vous avez des barres rocheuses calcaires, alors assez loin d'où on est, vous avez le pic de Bugarrache qui est chatouille modestement le ciel à 1230 mètres. Et alors le Corbière, certes un vin, et d'ailleurs Frédéric Juvet d'un côté et Sophie Guiraudon du Clos de l'Agnel, alors c'est très joli l'Agnel parce que ça signifie l'agneau en occitan, vont nous le montrer, mais c'est un territoire avant tout. Alors on n'est jamais très loin des cinq fils de Carcassonne, nous sommes à l'est de Carcassonne, de chez Dame Carcasse, et puis bien sûr vous avez toujours des effluves cathares un petit peu partout. Et nous sommes nous en fait au nord du département, enfin encore plus au nord vous avez la Montagne Noire, on est sous la protection de la montagne d'Alaric, la Grâce et son abbaye aux avant-postes de la civilisation carolingienne n'est pas loin, et on va continuer ce voyage avec Frédéric Lizac, qui est quand même un naturaliste comme on entend dans cette émission, qui est aussi un éditeur.
Pour moi, c'est au-delà de l'aspect paysage, avec ces zones un peu plates où il y a la culture de la vigne, il y a un petit peu de céréales, et ces zones pentues où le sol fait que, nécessairement, c'est une autre végétation, ça fait partie des milieux qui se confrontent, ça fait partie des lisières, qui, on le sait, sont les milieux naturels les plus riches,
ouais.
Que ce soit les lisières maritimes, les lisières forestières. Ben voilà, j'ai l'impression que ce petit village, il s'est installé dans une lisière pour profiter du maximum des richesses, à la fois des richesses humaines, parce que ça fait plus de 2000 ans ici que les Romains sont installés juste en face. La petite colline s'appelle Saint-Rome. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, l'imaginaire collectif dit qu'il y a peut-être eu une installation romaine il y a très longtemps.
En tout cas, ils ont planté de la vigne.
Voilà, en tout cas, ils ont planté de la vigne dans le coin. Et puis, la nature qui est là avec cette garrigue. Cette garrigue, en plus, qui est beaucoup plus sauvage qu'il y a 50 ans.
Oui, parce que maintenant, on a une densité de 2 à 3 habitants au kilomètre carré.
Oui, et surtout, il n'y a plus un berger. Il y avait... Partout, là, sur toutes les garrigues, il y avait des moutons et des chèvres, et c'était rasé.
Voilà.
Et aujourd'hui, ça met peut-être, parce que c'est un milieu très sec, pas désertique, mais pas loin, en tout cas du méditerranéen, ça met du temps, mais petit à petit, la végétation s'est recomposée, ça a commencé par les herbacées, quelques plantes ligneuses, et aujourd'hui, effectivement, vous avez presque le climax naturel qui revient, ce sont les chênes verts qu'on a sous les yeux, et donc, vous avez une garrigue qui est beaucoup plus sauvage qu'il y a 50-60 ans.
Ah, un jet. Hop, là, au lointain, normal, il y a quand même du chêne ici. On a du kermès, on a du vert.
C'est le chêne vert surtout, évidemment le chêne blanc, qui est le chêne caduc typique méditerranéen.
Ah oui, trois, là.
Et puis on est garrigue, donc on n'est pas maquis.
Alors ça, c'est intéressant, faites bien la différence entre le maquis et la garrigue.
Elle est très simple. Les deux sont évidemment de climat méditerranéen, c'est le climat qui impose sa loi aux végétaux. Mais d'un côté, vous avez un sol calcaire, donc basique. De l'autre, vous avez un sol acide, granitique. Par exemple, la Corse est à 90% maquis, parce que c'est un massif granitique, alors que ici, le haut des Corbières jusque vers Totavel et tout ça, on est sur du calcaire, donc on est sur de la garrigue. Et du coup, vous retrouvez évidemment des plantes très proches, voire certaines communes, et avec un cortège d'adaptation au milieu sec, mais vous n'avez pas exactement les mêmes plantes. L'arbousier, par exemple, pousse très peu en garrigue, alors qu'il est très commun dans le maquis. Le chêne kermesse, le petit chêne, il y en a quelques-uns ici, effectivement, avec les feuilles coriaces, on dirait des petites feuilles de houx, c'est un arbre du maquis.
Là, on s'est mis accroupi. Ça sent bon. Ça sent bon. Ah, évidemment, on a du thym partout, là, ouais. Déjà.
Il est un peu sec, hein, quand même, déjà, là, évidemment.
On a de la lavande, on a les pieds de lavande pas loin, on a... Est-ce qu'on a un peu de romarin
aussi?
Ah
oui, bah, c'est le... Les plantes, elles ne font pas ça pour nous faire plaisir.
Hein. Non, jamais. Non. On va le rappeler. Pourquoi font-elles ça?
Ah ben, c'est une des méthodes de résistance à la sécheresse. C'est de concentrer de l'énergie, parce que les huiles essentielles pour les plantes, c'est de l'énergie. De concentrer de l'énergie pour résister face à la sécheresse, aux périodes difficiles. Quoi. C'est une forme, entre guillemets, de réserve.
De même que les plantes ne sont pas jolies pour nous, mais pour attirer le bel insecte qui va venir la polliniser.
Elles sont belles pour les abeilles.
Ah, alors autre lieu, ici dans ces corbières. Bonjour Frédéric Juvet.
Bonjour.
Alors Frédéric, on est dans vos vignes, dans ce coin de Corbières. Et alors c'est très intéressant parce qu'en fait, vous êtes un Suisse qui est arrivé en 1991, qui avait déjà quand même un beau bagage en matière d'œnologie. Vous avez travaillé dans les chais, vous aviez travaillé à Bordeaux. Puis alors vous êtes tombé aussi un peu amoureux de ce coin.
Cette montagne d'Alaric, c'est un lieu un peu mythique. Et puis c'est vrai que c'est une montagne qui compte beaucoup puisque... D'abord, elle nous sépare du bruit, c'est-à-dire de la vallée et de l'autoroute. Ouais. Et puis que, bah, comme Suisse, d'avoir quelques reliefs, c'était indispensable. Oui. Voilà, et les Corbières, c'est un pays dur, c'est le pays de la pierre, mais c'est un pays absolument magique. C'est un désert, il y a 2 habitants au kilomètre carré. C'est ce qui fait nos problèmes, mais aussi son charme.
Frédéric, on est bien sûr sur cette terre de pierre, mais aussi une terre de vent. Hein. Le vent, il y a vraiment élu domicile ici. On a ce fameux cerce hein, quand même qui souffle.
Ici, ce qui est très frappant, c'est que les gens du village, ils ne disent pas il pleut ou il fait beau, ils disent c'est cerce ou c'est marin. Et le vent compte énormément. Et c'est vrai que le cerce, c'est un vent qui nous protège pas mal des maladies, pas de toutes, mais en tout cas de la pourriture et des choses comme ça. Alors que le marin, c'est un vent un petit peu comme le faune. Oui. Chez nous, en Suisse, ben, on a un peu mal à la tête, il fait humide, il fait chaud, et c'est pas très agréable. Donc ici, même quand il y a du cerce et qu'il pleut, les gens ne sont pas très inquiets, les vignerons. Oui. Parce qu'on se dit que le temps va revenir.
Voilà. Mais c'est quand même un vent qui assèche, hein, c'est la tramontane.
Oui, c'est exactement la tramontane. Mais ici, il paraît que c'est le deuxième endroit le plus venté d'Europe, les Corbières, après l'Écosse. On dit qu'il y a 300 jours de vent. Et c'est vrai que les jours où il n'y a pas de vent, on est presque inquiet. Parce qu'on est tellement habitué à avoir du vent tout le temps.
Quel état d'esprit faut quand même avoir pour quand même tenir le coup? Parce que vous le disiez, hein, c'est quand même c'est un pays de rude.
Ben, si on n'a pas la passion, je crois que c'est un métier impossible. On n'est pas dans des régions faciles. Donc ben, pour tenir le coup, il faut avoir beaucoup de volonté et surtout accepter l'imperfection. J'aime ce métier parce que ce métier, c'est un métier de généraliste qui allons lentement, alors qu'on est dans un monde de spécialistes qui va vite. Donc nous, on est très mauvais dans tout, mais on doit s'intéresser à tout, à la pédologie, à la chimie, au commerce, aux relations humaines, voilà.
Oh les belles vignes! Bonjour cher Bingron.
Bonjour Denis.
Bonjour Sophie Guiraudeau. Nous sommes chez vous dans les Corbières. Présentez-nous le paysage, là, s'il vous plaît, qui est quand même très beau.
Alors ici, on est sur le versant sud de l'Alaric, qui est le massif calcaire des Corbières, qui culmine à 600 mètres. Et on est sur un bon petit domaine de 10 hectares. C'est juste magnifique. Et moi, de m'y sentir bien, je suis sûre que si moi je m'y sens bien, ça fait du bien à mes vignes.
Et alors, il ne se passe pratiquement pas une journée sans que vous alliez voir vos cèpes.
Il faut être très présent. C'est pas comme si j'avais un élevage, parce qu'on peut quand même les quitter 2 jours. Mais il y a des périodes où il faut y être vraiment beaucoup. Il faut surveiller les maladies, mais il faut surveiller comment elles poussent, il faut surveiller les herbes, il faut surveiller les plantes, il faut surveiller les fleurs autour, voilà. J'aime beaucoup dire que je suis vigneronne paysanne.
On voit au milieu de vos vignes des oliviers. Alors c'est beau parce qu'on a le vert intense de la vigne, là. Et puis évidemment, on a cette douceur de vert pâle que l'on connaît avec l'olivier, là, qui danse doucement au vent. Et il y en a plusieurs. Et là, c'est une véritable signification. C'est pas pour faire simplement joli, c'est aussi la diversité qui vous est extrêmement chère.
Oui. En fait, la vigne, au départ, c'est une liane, hein. C'est une plante sauvage. Ouais. L'homme l'a domestiquée, tant mieux. Mais l'idée de laisser les, de planter des nouvelles et de planter des arbres au milieu des vignes, autour des vignes, c'est un peu pour casser ce rythme de la monoculture. Comme dans toutes les cultures, la monoculture, c'est pas souhaitable. Et la vigne, elle a aussi besoin de cette diversité-là. Donc, j'ai planté quelques arbres fruitiers en bordure,
ah oui,
quelques oliviers dans les vignes. Alors après, mon tractoriste, que j'aime beaucoup, n'aime pas trop ça, lui, parce qu'il dit « oui, oui, ça nous embête, ça nous empêche d'aller trop vite ». Eh bien oui, mais c'est pas grave. Au moment où on passe à côté de l'arbre en question, que ce soit un amandier, un olivier, on ralentit, on fait la manœuvre qu'il faut. Si je pouvais, j'en aurais encore plus. Après, c'est une histoire. Voilà, après, c'est. Il
faut d'équilibre.
Il faut les planter, il faut les faire venir, il faut les arroser, parce que la vigne est quand même une plante qui concurrence beaucoup. Mais pour moi, il est très, très important dans le paysage qu'on voit ici de voir toutes ces haies qui sont des refuges à insectes, animaux, à de la faune particulière. C'est important.
Là, qu'est-ce que je vois avec un instrument de musique, un insecte avec deux antennes et des ailes? Ah bah oui, allons-y.
La vie c'est comme les papillons, d'abord chenille dans son cocon, et puis un beau jour sortir du coton. Se retrouver en plein soleil, bâiller en déployant ses ailes, et s'envoler. Comme les papillons, trois petits tours et puis partir. Hey, car papillon, jamais revenir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir.
Les hommes, tout comme les papillons d'abord, pleuraient dans les jupons. Et puis un jour quitter la maison. Tu au valet de balcon, en jardin plané, de bonheur en chagrin.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir.
Toujours mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, mouchoir d'amour. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir.
Toujours mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, mouchoir.
Bonsoir.
T'as dit deux jours ?
Je peux pas. J'ai la manifestation de la coordination paysanne. Je fais partie de l'équipe fumier, j'ai promis.
CO2, mon amour.
Qu'est-ce que c'est que ça encore ?
Ben, on doit verser 3 tonnes de fumier dans le jardin du sous-préfet. On compte sur moi.
Toi, t'as changé de camp en changeant de région. Hein.
Denis Chessou.
Enfin, c'est pas grave, hein. J'ai rien à foutre de ton usine de chiottes. Alors, on va faire jouer avec ton tas de fumier si ça t'amuse.
Sur France Inter.
Eh ben oui, il est dans le pré, le bonheur aussi. Ben voilà, donc on va repartir dans les Corbières, toujours sur France Inter. Les vignes sont sur Ribaute, sont sur Lagrasse, sont sur Mont-Laure, si vous connaissez. Même si vous connaissez pas, c'est pas grave, on envoie des bouffées des autres, comme ça, un peu partout, donc en France, avec cette émission. Et donc, on va rejoindre aussi donc Sophie Guiraudon, donc qui est une passionnée de son territoire. Petite parenthèse, là, on avait donc la chanson Papillon, donc nos amis lépidoptères. Vous en avez quand même pas loin, je crois que c'est plus que 80%. C'est des noctambules, c'est-à-dire que vous prenez 100% de papillons, vous en avez à peu près 80%, ils sont de nuit, et 20%, ils sont de jour. Et peut-être même que c'est peut-être encore plus haut, le chiffre des nocturnes. On rejoint Sophie Guiraudon, et puis quand même, ah oui, qui est une passionnée de bio, et pour elle, le bio.
Pour moi, c'est juste logique. D'abord, c'est un choix pour moi, mais c'est un choix pour elle, pour la terre, voilà. Aujourd'hui, devenir paysan autrement qu'en bio, c'est ne pas avoir compris sur quoi on met les pieds tous les jours et à quel point on doit vraiment faire attention aux vivants qui nous entourent. Alors moi, je fais un labour un rang sur deux, et un rang sur deux, je laisse l'herbe, ouais. Pas un semis, hein, c'est l'herbe qui pousse spontanément, que je laisse pousser et que je tonds parfois selon les années. Idéalement, j'aimerais laisser de l'herbe partout, mais ici on a quand même un problème de sécheresse qui est accentué par ce cerce. Donc il faut faire attention de ne pas avoir de concurrence en eau et en azote par rapport à ces plantes. Donc un rang sur deux, pour moi, c'est bien. Ça laisse justement, toujours dans le même esprit, l'herbe centrale est un endroit où peuvent venir les abeilles, les insectes. C'est important de laisser cette vie au milieu. Mais c'est des plantes locales. Alors, il peut y avoir des chardons, il peut y avoir... Il y a des ronces, on les aime pas trop, mais il y en a. Il y a des fleurs, il y a des gueules de loup, il peut y avoir des orchidées, voilà, il y a plein de fleurs au milieu.
Et vous, en bio, bah, vous avez droit quand même au soufre, et vous avez droit donc à la bouillie bordelaise, autrement dit au cuivre, à la fois pour lutter contre l'oïdium ou lutter contre le mildiou. Quoi.
Voilà, ces deux produits sont autorisés. Ici, on est une région très sèche, donc le mildiou...
Ouais, vous l'avez pas trop, là.
Généralement, ouais, c'est pas une maladie qui est très handicapante. Ouais, tandis que l'oïdium, ici on est une région assez sensible à l'oïdium, d'autant plus avec un cépage comme le carillon, qui lui est particulièrement sensible. Donc le gros de notre travail, c'est de surveiller ce champignon qui s'appelle l'oïdium.
Qu'est-ce que vous aimez exprimer ? On sait qu'une vigne exprime toujours, bien sûr, un terroir, mais il exprime aussi l'histoire du lieu et aussi l'histoire de la viticultrice.
Oui, je voudrais prendre les raisins, les prendre le plus délicatement possible, ouais. Et les laisser s'exprimer tout seul. Pour moi, le travail de la vigneronne, de la vinificatrice...
C'est un accompagnement de la nature.
Voilà. C'est pas modifier le goût des raisins. En aucun cas. Surtout pas. Et si l'année est très chaude et qu'on a beaucoup de degrés, ben on a beaucoup de degrés. Si l'année est fraîche parce qu'on n'a pas eu une bonne météo et que les raisins sont acides, ils sont acides. Ouais. C'est-à-dire déjà faire en sorte que nous-mêmes, on accepte la qualité de nos raisins, et en faisant en sorte qu'ils soient le meilleur possible, hein. Et on l'a fait accepter à nos clients. Donc c'est ça, accepter chaque année, que chaque année est différente. On n'est pas dans une...
Standardisation.
Voilà. On n'est pas dans une viticulture industrielle. Mmh. On ne sait pas régler le soleil, on ne sait pas régler la pluie. Donc chaque année, ça peut être très différent. Et moi, mon job à la cave, c'est de prendre ces raisins et d'en tirer le maximum de qualité, mais éviter de modifier, de faire apparaître des arômes différents, de changer les structures acides, voilà.
Réchauffement climatique, c'est une question traditionnelle, puisqu'on sait que cette liane est donc extrêmement sensible. En plus, ça fait partie des végétaux les plus renseignés, on va dire, au monde sur le réchauffement climatique. Donc, vous le voyez ?
Oui, bien sûr. Je le vois depuis 20 ans. Il y a 25 ans, les degrés étaient insuffisants. Il fallait rajouter... c'était pas du sucre, c'était du sucre.
Bon, on chaptalisait, quoi.
Voilà, on enrichit ici. Dans le Languedoc, on enrichit avec du sucre de raisin. Aujourd'hui, on voudrait trouver notre solution. On voudrait trouver l'inverse. Comment trouver des levures qui auraient un très mauvais rendement en sucre pour faire moins d'alcool ?
Ouais.
Donc, ne serait-ce que par ça, on le voit. Et puisque le réchauffement, je trouve que c'est le manque d'eau. Alors, c'est quand même lié. Mais le manque d'eau, c'est quelque chose qui est chronique ici depuis une dizaine d'années.
Alors, vous avez même aussi donc, un voisin qui vient récupérer des feuilles de vigne.
Exactement. Ça, c'est une histoire un peu rigolote. C'est un voisin qui cuisine des feuilles de vigne à la façon grecque, la dolmades, ça s'appelle. Farcie, des feuilles de vigne farcies.
Ouais.
Et une fois, il est venu me demander s'il pouvait prendre des feuilles de vigne. Alors, j'ai dit bien sûr, mais c'est pour quoi faire. Il m'a expliqué que c'était pour cuisiner. Et il m'a expliqué que lui, voilà, il n'était pas bio et qu'il n'osait même pas manger les feuilles de ses vignes.
Ah, de ses vignes à lui qui ne sont
voilà.
pas bio.
Donc, il a quand même conscience que ce qu'il met sur ses vignes, c'est pas bon pour la santé, puisqu'il ne peut pas les manger.
Alors justement, l'argument que l'on peut employer en général en bio, vous avez des conventionnels qui sortent des vins mais absolument merveilleux. Enfin, vous avez même une majorité qui sort de très bons vins. Donc c'est pas forcément celui du goût, mais ça va être quand même celui de la santé au départ.
Complètement. Moi, je ne dis jamais que le vin bio est meilleur au niveau gustatif. Au niveau santé, ça c'est évident ouais. qu'il l'est. Ouais. Mais on peut faire de très bons vins non bio et on peut faire de pas très bons vins
bah
bio.
Oui.
Hein, parce qu'on peut aussi
se rater en vinification
et on peut aussi avoir des mauvais raisins en bio si on n'est pas attentif. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en bio, on n'a pas la force de frappe chimique.
Mais non.
Donc, pour arriver à avoir des raisins sains, c'est quand même un des premiers buts de la viticulture, il faut être très attentif. Il faut surveiller, il faut prendre soin de ses vignes comme d'un enfant.
Alors, il y a aussi le plaisir quand même que vous avez d'aller voir ces vignes. Bien sûr, vous êtes une professionnelle, donc vous les observez, vous améliorez tout ça. Vous en avez besoin, vous. Hein, donc...
J'y vais pour le travail.
Ouais.
Mais de temps en temps, quand on est énervé, on est tous énervés de temps en temps.
Il paraît.
Quand, je sais pas, on a X raisons de l'être.
Ouais.
La seule chose qui me fait du bien, c'est de venir ici. Parce qu'en plus, ici, c'est beau. J'aurais des vignes à côté de l'autoroute, j'aurais peut-être pas le même ressenti. Mais
ouais.
là, de venir dans cette nature et dans ces vignes, et d'être là, ou de travailler, ou ne serait-ce que de marcher, ou de m'asseoir au milieu des vignes.
C'est pas
mal.
Et
il y a une espèce d'énergie qui est apportée par la terre, qui est la seule chose qui peut être rassurante.
Et alors, qu'est-ce que vous ramassez, là, Frédéric ?
Une cigale végétale.
Oui ?
Écoutez.
Ah, joli, c'est-à-dire que vous pressez cette fleur, qui n'est plus en fleur, d'ailleurs.
Oui, c'est un petit chardon. Ouais,
c'est un petit chardon. Et ça fait la cigale.
C'est un jeu d'enfant qui se faisait autrefois.
Oui, profite-nous la cigale. Voilà.
Bon. Elle n'est pas très rapide cette cigale hein, par rapport à celle qu'on entend derrière, mais.
Bah là, elles sont boostées par le soleil, donc c'est encore autre chose.
Ça, c'est ça.
Et alors, qu'est-ce que vous voulez chercher ici? Parce que vous avez un véritable coup de cœur pour ces corbières.
Je crois que c'est cet équilibre de paysage, justement, entre la présence humaine et les aspects naturels. C'est plus qu'un équilibre, c'est une imbrication ici, je trouve, qu'il y a. Où l'homme est là. C'est sûr, il cultive, il n'y a pas de problème, on voit bien sa présence devant tous ces alignements de pieds de vigne, de Syrah, de Grenache, de Carignan. Mais en même temps, il n'occupe pas tout et il fait avec. Il a été là à une autre époque de manière différente, en occupant beaucoup plus ses coteaux. Et c'est comme si ce paysage était une lisière en soi.
L'énergie portée par la terre qui peut être rassurante. Donc, trois beaux personnages, à savoir donc ce Figuerodon, donc du Clos de Lagnel, Frédéric Juvet, notre Suisse, et puis Frédéric Lisac aussi. Et donc, tous du côté de Mont-Laure, dans ce paysage des Corbières, dans ce département donc de l'Aude. Ben, j'espère que ça vous a fait du bien. On s'est débarbouillé avec le vent, hein. Je peux vraiment vous assurer que c'était ça. Bon, on va poursuivre le voyage. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on va avoir vos répondeurs et puis on va aussi avoir du Steinbeck.
Je rêve d'ailleurs, Félix. Je rêve d'ailleurs atmosphérique.
Oui, ne t'haque ou ne pki. Mahbabi, fajna. Fajna, farhba. Mdaalfin ou sehin.
Je rêve d'ailleurs de villes constellées. Je rêve d'ailleurs de pays safranés.
Oui, ne t'haque ou ne pki. Mahbabi, fajna. Fajna, farhba. Mdaalfin, zahin.
Je rêve d'ailleurs. Avec pour seul bagage. Tes yeux pour le voyage. À Constantine, de Rio à Santiago, de Ouaga à Malaga, Nicosie à Nairobi, de Mumbai au Népal, Médé.
d'ailleurs inconnus. Je rêve d'ailleurs et d'imprévu.
Oui, notre haque, on est qui ma baby,
d'ailleurs choisi par Muriel Pérez, interprété par Lady Cyr. Je rêve d'ailleurs, ça me rappelait d'ailleurs en l'écoutant, donc le titre en tout cas, une phrase d'André Breton, qui était ce poète chef de bande surréaliste. Et quand il avait découvert donc Saint-Cyr-la-Popie, très beau village, c'est un pléonasme du Lot, il a dit « J'ai cessé de me rêver ailleurs ». 01 56 40 40 35.
Bonjour à tous, c'est Daniel. Vous appréciez peut-être comme moi les vergers de Normandie ? Profitez-en bien, ça ne va pas durer. En effet, la coopérative Agrial, qui a le quasi-monopole de la pomme à cidre, subventionne l'arrachage de 1000 hectares de vergers en raison d'une surproduction face à un marché bouché. C'est donc environ 1 million de pommiers qui disparaissent aussitôt après la prochaine récolte. Ce ne serait pas plutôt une idée pétillante de convertir ces vergers en bio ? Allez, à bientôt !
Bonjour Denis, salut à tous, c'est Marc Barillot d'Esprit-Trièves. Nous vous invitons à Quelfoire, la fête de la transition. Ça se passe du vendredi 22 au dimanche 24 septembre, dans la petite ville de Mins. Et c'est dans le Trièves, c'est-à-dire 50 km plein sud de Grenoble, entre le Vercors et l'Oisans. Inutile de vous dire que le cadre naturel vaut le détour. Au menu, 3 forums de discussion sur le thème des relations et de la complémentarité entre la ville et la campagne. 1. Le bois comme source d'énergie. 2. La souveraineté alimentaire. 3. Les déplacements. Il y aura également plus de 20 visites d'initiatives locales en transition, un grand marché. Et pour couronner le tout, le lancement de la monnaie locale complémentaire et citoyenne du bassin grenoblois, le Cairn. Merci de votre écoute et au week-end prochain.
Voilà, donc juste après C'est au de mon amour, donc l'Esprit Trièves, c'est en ce moment dans le département de l'Isère, du côté de Mins. Encore des appels.
Bonjour Denis Chessou. Alors les associations de maintien de l'agriculture paysanne, plus connues sous le terme AMAP, nous avons lancé récemment un financement participatif pour l'édition d'une BD grand public. Alors pour participer et donner vie à Gabriel, le héros, jeune AMAPien, rendez-vous sur la plateforme de financement ZEST, ZESTE, ou bien sur la page de l'émission de CO2 Mon Amour, qui j'espère relayera le lien. À bientôt, et puis attention, parce qu'il y a une date de fin de campagne, c'est le 16 octobre. Au revoir, c'était Marie en Normandie.
Bonjour Denis. La nuit et le clair-obscur, ce sera l'un des deux thèmes de la 6e édition des rencontres Objectifs Nature, qui se tiendront du 18 au 24 septembre à Château-Arnoux-Saint-Auban, dans les Alpes de Haute-Provence. Le second thème se veut comme une certaine idée de l'agriculture de demain. Des invités pour des conférences ou des débats, comme Marc-Édouard Collin, chercheur en toxicologie des abeilles, des sorties nature pour écouter et scruter la nuit. Une fois encore, Denis, il se passe beaucoup de choses dans les Alpes d'Haute-Provence. Merci, bonne semaine, au revoir.
Et notre dernière séquence que nous reprenons, quand la nature inspire les écrivains, aujourd'hui, John Steinbeck.
J'y suis pour rien, tout ce que je sais, c'est que j'ai reçu des ordres. On m'a dit de vous dire de partir et c'est pour ça que je vous le dis.
Que je parte de ma propre terre ?
À qui appartient la terre ? La société Shawnee des terres arables.
Et qui est la société Shawnee des terres arables ?
Une personne, c'est une société.
Ils ont un directeur, n'est-ce pas ? Ils ont quelqu'un qui sait à quoi sert un fusil, n'est-ce pas ?
Oh petit, c'est pas sa faute, c'est la banque qui lui dit ce qu'il doit faire. Mais je sais pas à qui est la faute.
Eh ben moi, je sais une chose, monsieur, c'est que personne n'arrivera à me chasser de ma terre.
Les raisins de la colère d'un autre John, John Ford. Alors, quand la nature inspire les écrivains, avec vous, bonjour à vous Elisabeth Combre, donc cet ouvrage édité aux éditions Plume de Carotte, dont Frédéric Lisac d'ailleurs est l'éditeur. Donc on va poursuivre ce voyage. 1902-1968, Steinbeck. Comment en fait Steinbeck a découvert l'écologie?
Bonjour Denis. Steinbeck a découvert l'écologie avec son ami biologiste Edouard Ricketts. En 1940, il l'accompagne dans une mission d'exploration de la faune du Golfe de Californie, une expédition dont il fera le récit en 1951 dans un livre intitulé « Dans la mer de Cortés ». Alors sur un mode d'humour, hein, on parlait l'autre jour de Mark Twain, mais là on a une tradition qui se poursuit quand il nous raconte la chasse, j'ai envie de dire la chasse au crabe plutôt que la pêche au crabe, parce que c'est tout juste, il ne doit pas leur courir après. On a des situations comme ça, extrêmement comiques, et puis de l'information aussi sur cette fameuse mer de Cortés.
Et on voit tout cela aussi, Elisabeth, évidemment, dans les fameux raisins de la colère, parce que là, on est dans un océan de poussière, c'est une catastrophe écologique.
Dans les années 30, une sécheresse exceptionnelle s'abat sur le Middle West américain. Steinbeck va situer une partie de son roman en Oklahoma, justement. Et là, les fortes températures, il ne pleut plus, et puis tout ça combiné à une surexploitation des sols, tout ça va entraîner une catastrophe écologique d'ampleur. Hein. On parle de Dust Bowl, hein, la zone de poussière. Les terres s'assèchent, les cultures sont ravagées par les tempêtes, il n'y a plus rien qui pousse. Et alors s'enclenche une gigantesque migration vers l'ouest, jetant sur les routes ce qu'on pourrait appeler les premiers réfugiés climatiques du siècle. Mmh. Ils sont partis chercher une terre promise californienne, tous ces paysans qui ne pouvaient plus vivre de leur terre. Et dans son roman, Steinbeck raconte la masse humaine qui se déplace et qui souffre. Alors, inspiré par ses reportages, il est allé dans des camps de déplacés. Et il observe les humains en troupeau, en quelque sorte, et dans leur comportement grégaire, mais aussi solidaire, bien sûr. Il nous parle d'humains, il ne nous parle pas seulement d'animaux, bien sûr. Il prend des images, il aime bien ça, les bestiaires. Il prend des images animales.
Il est sur la tortue. Alors la tortue, c'est quoi?
Il raconte la tortue qui essaye de traverser une route et qui est malhabile avec ses grosses pattes, qui se trouve à un moment donné en train de rechercher son équilibre parce qu'elle est en train de passer un petit muret, quelque chose, où ses pattes, elles sont en l'air. Donc elle peine, et puis elle y arrive. Donc tout est dans la métaphore. Ils ont du mal, mais ils y arrivent. Voilà, un peu plus tard, il titrera son roman suivant Des souris et des hommes.
Hein, oui, c'est, oui.
Voilà, cette fois-ci, c'est
donc là, ce sont deux ouvriers agricoles.
L'histoire est un drame et Steinbeck les observe. Et puis, de temps en temps, quand même, il fait un travelling arrière. Il regarde aussi l'environnement parce qu'on est dans des grands espaces, on est dans des milieux magnifiques dans lesquels s'agitent les petits humains. Hein, quand on regarde de loin, tout d'un coup, tout paraît tout petit. Et c'est cette vallée de la Salinas où il a grandi.
C'est là qu'il est né. Ouais.
Ce fameux saladier du monde, comme il l'a appelé. C'est une région dont il parlera dans ses œuvres et dans ses chroniques aussi.
Merci de nous avoir donc offert cette bouffe de Steinbeck avec ce bestiaire humain quand la nature inspire les écrivains aux éditions Plume de Carotte. Merci Elisabeth Combre, à bientôt.
À bientôt.
Il y avait, mesdames, messieurs, la technique, Evine Pelot et Valentin Hazan. Il y avait Camille Blanès, pétillante, indispensable, collaboratrice, qu'elle soit remerciée, ainsi que Xavier Pestugia, qui réalise l'émission, qui évidemment colorie à chaque fois tous les reportages, comme celui des Corbières. Le vent était de là-bas, le vent était vraiment de là-bas, il était des Médine Corbière, mais les musiques, ben non, elles ont été rajoutées pour remixer donc tout cela. Merci à Muriel Pérez, à Anne Gouzon, qui nourrit les sites de l'émission, le répondeur 01 56 40 40 35, 01 56 40 40 35, un petit Twitter chez Sou, tout simplement, CHEI2SOUX. Le podcast, vous en avez l'habitude. Abonnez-vous au podcast, à tous les podcasts de France Inter. Allez, hop là, allez-y. L'actu du Montilou, ce sera après les petits bateaux demain à 19h54. Et puis nous, la semaine prochaine, on va s'intéresser entre autres aux semences avec deux jeunes, Alexandre Lambroso et Jonathan Attias, qui ont filmé, qui ont fait un très bon documentaire des clics de conscience. Donc on aura le temps d'en parler. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très bon week-end. Et là, tenez, bon, reste dans le sujet.